présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. À la police à régler cette affaire. Monsieur Franblanc lui dit, si vous permettez, nous allons construire des robots, des mutants et des hommes oiseaux pour renforcer l'armée et la police. Je puis aussi vous fournir d'une façon exceptionnelle les hommes en noir. Qui sont très efficaces. Je crois qu'ils vous seront très utiles pour le maintien de l'ordre en France. Le ministre de l'Intérieur lui dit, ils sont surtout efficaces pour les tueries. François Franblanc lui dit, elles vous sont utiles. Je ne dis pas le contraire. Marc Girardon demande à Franblanc, croyez-vous qu'ils seront assez nombreux si on est obligé d'éliminer un grand nombre, disons même un nombre considérable. Franblanc lui dit, oui, et l'on recrute de plus en plus chez les jeunes. Marc lui dit, et puis, nous allons peut-être s'y mobiliser pour l'armée, hélas, si c'est nécessaire. Bon, je vous demande de vous tenir prêt. Il faudra c'est ouvrir des camps de concentration. les Américains aussi se préparent, on ne sait jamais. L'ONU, qui ne sert pas à grand chose, mais que l'on garde pour faire croire aux pays pauvres que ce n'est pas que la France ni l'Amérique qui commandent le monde, mais que tous les pays ont droit à la parole. Durant une réunion extraordinaire, la France et l'Amérique font voter la guerre. Car ils disent que si on ne fait rien, ils continueront à prendre nos femmes et nos filles. S'il n'y a pas de représailles, eux en feront. Ils nous prendront nos femmes et nos filles. Donc, il faut se battre. Et puis, il faut le faire pour la mémoire de cette pauvre enfant, Florence Beaulieu, qui était allée en Afrique pour les aider, les secourir, leur donner des soins avec amour, et qui a été sauvagement tué. Et puis, il ne faut pas oublier Jeanne Neff, une femme française qui, depuis de nombreux mois, prisonnière. Il faut, au nom de la France et l'honneur de son mari, la liberté. On vote la guerre. La France et l'Amérique envoient des troupes en Afrique. Débarquement sur les plages d'Afrique.
On se retrouve sur la plage.
Le débarquement se passe mal. Les Africains les attendaient. Il y a une furie terrible. Les troupes franco-américaines réussissent à s'infiltrer en Afrique. Sur les ports, il y a des bagarres terribles. Les Occidentaux ont des armes, des véhicules, des clones, etc. Très modernes. Mais le pays est très dur. La chaleur, le sable, les Africains qui se battent à la guérilla. Ils déposent des mines un peu partout et des pièges. La guerre s'enlise. Le continent est très instable. Les jours passent, la guerre s'enlise, Adèle a l'armement très sophistiqué, tremblant. Avec les robots, les mutants, les chimères. Et puis il y a les armes bactériologiques aussi. Mais le sable, la chaleur, les Africains se battent avec peu d'armes, mais ils sont très nombreux. Le continent est grand. Il y a beaucoup de coins désertiques. Les Africains sont aidés par les musulmans. Et les pays musulmans leur envoient des munitions, des hommes, des armes et de l'argent. Plus les jours passent et plus les Africains sont bien équipés. Dans tous les pays musulmans du monde, l'on on crie à la guerre sainte et on demande de l'aide pour les Africains. On leur envoie de l'argent, des armes et des hommes. Des milliers de musulmans du monde entier viennent rejoindre les Africains. Il y a des batailles terribles. L'on a distribué aux soldats français et américains des photographies de Jeanne, la belle Jeanne, a délivré. Jeanne l'a prise en entendant son mari en rire avec ses amis. Il dit: voilà, ils en ont fait une sainte. C'est bien d'eux, ça. Jeanne est fière et se dit que le monde se bat pour elle. C'est la vérité, cette guerre est devenue... sa guerre. La guerre est dure. Des pays musulmans et des pays pauvres sont battus contre les Occidentaux et surtout contre la France. Les entreprises tremblantes marchent à plein temps. Celles de Ricain aussi. et de Beaulieu, parce qu'il travaille pour Franblanc. Le Centre mondial de surveillance, Franblanc aussi, marche à plein temps. Il faut surveiller tous les suspects capables de créer des troubles en France. La clinique Riquin prépare pour ses greffes.
Voilà. Je te laisse, madame.
Et stocke des organes. La recherche. Scientifique. Marche à fond. La biotechnique. Fait des recherches dans tous les domaines pour rendre indépendante la France.
Voilà.
Trouve des moyens de cultiver rapidement.
Je ferme.
Des céréales, des légumes, etc. Et puis, crée de nouvelles races d'animaux pour les médicaments, etc. Toute l'économie et l'indépendance de la France dépendent de Franblanc. Et pour les autres pays aussi. Parce que les armes, la recherche, et même pour l'Amérique, dépendent de Franblanc. La guerre enrichit le groupe et le rend encore plus puissant. Les Américains ont demandé à la France, et bien entendu à Franblanc, la permission de participer à la guerre pour pouvoir donner un coup de pouce à son économie. Franblanc a accepté parce qu'il a dit au président Marc Girardon que les Américains commanderont des armes chez les Franblancs. Ils n'ont pas assez d'usines pour fabriquer. Et puis toutes les nouvelles armes sont brevetés sont sous licence Franblanc. Bien entendu, les Américains participent à la guerre, mais le continent appartient au Franblanc, donc à la France. Les villes, les cités, les aéroports, les gares, ports, tout est surveillé par la police et les hommes en noir. Ils ont reçu l'ordre de tirer sans sommation et des affiches préviennent les gens. La télévision et les radios font aussi des spots pour les prévenir. Les gens font attention et évite de circuler en groupe et de rester dans les rues. Toute personne suspecte est éliminée.
tribunaux d'exception ont été créés. Une personne arrêtée, qui n'a pu être éliminée, est jugée de suite. Dans chaque quartier, il y a des tribunaux d'exception qui siègent 24h sur 24 et font les 3-8. Les personnes sont menées devant le tribunal, jugées, et s'il est coupable, il est exécuté sur place et le corps mis à l'incinérateur du coin. On prévient la population aussi des espions qui doivent se méfier de tout le monde. Au moindre suspect, il faut obligatoirement prévenir la sécurité. Il y a un numéro vert et des boîtes aux lettres spéciales pour dénonciation. Toutes les personnes qui n'ont pas dénoncé un espion ou un ennemi quelconque de son pays risquent la peine de mort. Alors les gens se regardent les uns aux autres, s'espionnent. Et avant que son voisin le dénonce, il le dénonce. Des fois, et même souvent, un voisin qui a dénoncé un voisin est dénoncé par le même voisin. Les gens sortent peu. Ils ont peur. Parce qu'ils risquent d'être mitraillés et tués comme des bêtes. De peur des hommes en noir. On les connaît par leur tuerie qu'ils font depuis des années. La nuit, chez les pauvres. La guerre a rendu presque officiel les hommes en noir. Mais personne ne sait qui ils sont. Et qu'ils appartiennent à Franc Blanc. Même Franc Blanc ne doit pas le savoir. Pour une question de prestige et de sécurité, c'est normal qu'un PDG d'un grand groupe soit le chef d'une armée privée qui tue. Mais c'est mal vu. Donc, il ne faut pas qu'il le sache officiellement. Qu'est-ce que le destin d'un être en temps de guerre? Seule la mère de Cliff et Didier pensent à lui. Après s'être sauvé de chez son ami Didier, pour ne pas être vu de sa mère, il a couru comme il a pu dans la campagne au hasard. L'émotion, son étouffement est revenu. Il y a des difficultés à courir et à respirer. Après avoir couru pendant un long moment, il lui a paru très long. Il courait dans les champs de peur d'être vu sur une route. Il s'est arrêté et s'est allongé dans l'herbe. La fatigue l'endort. Heureusement qu'il fait encore chaud et doux. Il se réveille. Le jour commence à se lever. Il baille, il a faim, voit qu'il y a un peu plus loin un champ de pommiers. Il y va pour manger des pommes. Après avoir mangé, il se remet en route. Il ne cherche pas à savoir ce qu'il va devenir. Il a la tête vide. Cliff est seul, de santé fragile. Lorsqu'il fait complètement nuit, il s'endort. Dans un pré. Le lendemain, il se met en route. Cherche toujours pour manger et boire. Ce n'est pas facile. Alors, il prend des fruits, des pommes, des raisins, et pour boire, il boit dans les ruisseaux. Les jours passent. Cliff a maigri. Ses vêtements sont sales et froissés. Malgré qu'il essaye de rester propre, ce n'est pas facile de se nettoyer. Et puis, avec seulement un peu d'eau, de ruisseau, sans rien d'autre, alors il finit par être sale. Il a bronzé aussi. Pour faire ses besoins naturels, ce n'est pas facile. Et pour se nettoyer aussi. Le papier toilette est remplacé par des feuilles et de l'herbe. Ses bras, ses jambes sont tout écorchés. Ses chaussures de ville commencent à s'user. Cliff a toujours faim. 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 Il a tellement faim que la tête lui tourne. Pauvre Cliff. Et encore heureusement qu'il ne pleut pas. Il évite les villages et les habitations. Les jours passent. Un jour, Cliff ne trouve pas à manger. Il fait chaud, très chaud. Très très chaud. Ses jambes tremblent. Tremblent lorsqu'il marche et sa tête lui tourne. Tout d'un coup, il se sent essoufflé, voit tout blanc, rouge, noir et tombe. Il a perdu connaissance. Il est réveillé parce qu'on lui fait des petites tapes sur le visage. Il voit contre son visage une jeune fille. Elle doit avoir dans les 17 ans, blonde, cheveux mi-longs qui ondulent, yeux bleus, très fins. Et il demande « Vous allez mieux ?» Il réussit à lui dire « Oui ? Que vous est-il arrivé ? Sûrement, la chaleur. » Il est encore essoufflé et la tête qui lui tourne. Il redresse et lui demande « Pouvez-vous relever ?» Il essaye. Elle voit qu'il a des difficultés à tenir debout. « Vous allez bien ? Je ne sais pas. » Elle lui dit « Vous n'êtes pas bien. » Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vais vous mener chez mes parents. Non, merci. Mais, vous ne tenez pas debout. Allez, laissez-vous guider. Il voit qu'elle est grande, mince, et une robe à fleurs blanches avec la dominance blanche avec des petites fleurs bleues et porte de gros souliers de cuir noir. Le soutien à la taille et le guide, se l'espère, trop faible pour résister même à une jeune fille. La jeune fille le trouve charmant et même mignon. On dirait un prince déguisé en vagabond. Elle lui dit, vous n'êtes pas d'ici, vous. Vous êtes de la ville ? Il lui dit, non, pas vraiment. Elle lui fait, tu n'es pas un paysan ni un vagabond. Vos mains sont très fines. Et votre visage aussi. Voilà, c'est la ferme. Là, vous voyez, celle qui est au bout du chemin. Il voit une petite ferme avec ses dépendances, pas très grande. Ils arrivent dans la cour de la ferme. Ils entrent dans la cour. Il y a des poules, le fumier et un chien qui aboie en les voyant. La jeune fille lui crie « Couchez, Pato, tu vois bien que je suis avec ce jeune homme. » Une femme sort de la ferme. Elle est grande, maigre, cheveux gris en désordre, blouse noire avec des fleurs blanches. Porte des brodequins. Elle a un visage triste. Elle demande « Qui est-ce ?» La fille lui dit « C'est un garçon que j'ai trouvé inanimé sur le chemin du Brochegaël. » Sa mère lui dit « Et tu ramasses tous les vagabonds ?» La fille lui dit « Mais je ne pouvais pas le laisser. » S'il te gênait, tu n'avais qu'à le pousser sur le côté. La fille est près de la mère et lui demande « On peut rentrer ?» Sa mère lui dit « Bien sûr, on n'est pas des bêtes. » Elle les laisse rentrer dans la ferme. « Couchez, Pato !» La pièce est noire. Le sol, c'est à même la terre. Les murs sont noirs. C'est très sombre. Ça sent les poules, parce qu'il y a des poules qui picorent sur le sol et sur la table. Une grande table de bois, des bancs autour. Cuisinière à charbon, un buffet en bois sombre, un évier de pierre, et des escaliers étroits de bois pour aller à l'étage. Calendrier des postes sur le mur, crucifix. Sur le buffet, il y a des piles d'almanachs Vernon. La jeune fille fait asseoir le pauvre Cliff à table. Assoyez-vous. Je vais vous chercher à boire et à manger. Elle s'éloigne. Sa mère la suit. Ils vont près d'un garde-manger qui est une caisse avec un grillage. La mère lui demande « Tu sais qui c'est? D'où il vient ?»« Non, il m'en a pas parlé. » La fille prend un morceau de lard. Ouvre le buffet pour prendre une bouteille de gnoul, un verre et une assiette. Puis elle va porter tout ça à Cliff. Assiette de lard. Elle lui sert un verre de gnoul.
Tenez, ça vous fera du bien. Merci. La mère dit, il a dit merci.
La fille lui dit,
il doit être de la ville. Buvez.
Cliff n'a jamais bu.
Ce genre de choses se met à boire. C'est si fort. Qui crache ce qu'il a bu.
La fille et la mère rient.
La fille dit, vous verrez, ça vous fera du bien. C'est très bon. C'est de la gnoul fait maison.
La mère dit, ça c'est d'un vrai alors.
Cliff trempe les lèvres, ça brûle.
La fille dit à sa mère, il n'a pas l'habitude.
La mère lui dit, ça va, lui arrive venir.
Cliff est tout rouge et à chaud. à cause de cette chose. Il commence à manger le lard. Là, il aime. Il a très faim, mais la portion n'est pas très grosse. Une fois qu'il a fini, il se sent épuisé. Et puis, aussi, il est très fatigué de toutes ces journées où il a marché. La fille le voit, elle dit à sa mère, il faut le coucher. La mère lui demande, où veux-tu que je le couche? La fille lui dit, dans la pièce où stocke des pommes de terre. Ça risque d'être dangereux. Mais non, tu vois bien qu'il ne tient pas debout. Elle s'approche du cliff et lui dit, venez, je vais vous coucher. Elle l'aide à se lever et le mène à une pièce qui est sous les escaliers. Elle est petite, ça sent les pommes de terre. Il y a des tas à terre. Il y a contre le mur des casiers en bois où on a déposé des cajous de fruits, de légumes. Il y a une petite fenêtre. La fille lui dit, vous allez coucher ici, vous serez mieux que dehors. Elle lui met à terre un sac de pommes de terre. Et l'allonge dessus. Merci. Comment vous appelez-vous? Nous sommes les Baudins. Et moi, c'est Marie. Mais l'on m'appelle Marinette. Et vous?
Moi, je suis Cliff.
Elle lui dit, c'est pas un nom d'ici, ça. Drôle de nom. Il sourit et lui dit,
vous êtes bien gentille,
elle lui fait. Et vous, bien mignon. Et elle se sauve en courant. Cliff reste allongé, sans bouger. Il se sent là. Plusieurs jours qu'il a marché sans presque rien manger, sous la chaleur et dormi à même le sol. Il a encore faim, mais finit par s'endormir. Trou noir. Puis, il rêve qu'il court, qu'il court. Soleil. Il va avoir très chaud parce que issu, on lui court après. Oui, le sable est chaud, il lui colle à la peau, il tourne autour d'un mur, autour d'un mur. Il court de plus en plus vite. Il a très peur, très peur. Tout d'un coup, il sent une immense douleur au tel endroit
En sueur. Il y a des difficultés à reprendre ses esprits. Entend des voix. Il peut comprendre. Une voix d'homme dit, on ne sait pas qui il est. Après tout, ce qui s'est passé, c'est peut-être un ennemi. Marie qui dit,
non, et puis il semble bien ainsi... inoffensif.
Qu'est-ce qu'il fait à terre, près de chez nous?
Je sais pas, c'est peut-être un vagabond.
Puis, le silence. Le silence.
Et Cliff se dit qu'il faut qu'il reprenne la route. Mais il est tellement... là, qui se rendort.
Il se réveille, il voit que le jour commence à se lever, se dit qu'il est temps de s'en aller.
Il se lève un peu courbaturé d'être couché sur le sol. Et sort de la pièce. Il n'y a personne dans la pièce principale. Va vers la porte. Elle est fermée à clé. Entend des pas dans les escaliers, se retourne et voit déjà habillée Marie. Elle lui demande, vous cherchez à partir? Il lui dit, oui. Elle va à lui. Pour aller où? Je ne sais pas, je dois aller plus loin. Elle lui fait, vous ne pouvez pas, vous êtes dans un trop mauvais état, vous allez retomber et perdre connaissance. Il lui dit, mais il faut bien que je m'en aille. Elle lui fait, plus tard, qu'est-ce que je vais faire chez vous? Elle lui dit, ferez des petits travaux et vous reposerez. Il se souvient de la conversation de la nuit. « Et que vont penser vos parents ?» Elle lui dit, « Je leur dirai que vous avez besoin de repos. Allez vous asseoir. Je vais vous servir la soupe. » Et il va s'asseoir. Elle va mettre la cuisinière en route.
Demi-heure plus tard, les autres membres de la famille rentrent dans la cuisine. En plus de la mère, il y a le père. Un homme petit, tout maigre, les cheveux gris, le regard d'une fouine.